inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Ce magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
La plus rebelle des radios.
Bonsoir, nous sommes le mercredi 18 novembre 2015. Il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure des informations.
Alors, ce soir, on va faire un tour au Burundi, qui est au bord de la guerre civile.
Ensuite, on va bien sûr parler des attentats à Paris. On va faire un point sur l'état d'urgence.
Ensuite, on va refuser la simplification tous ensemble.
On étudiera les réactions de la bourse.
Ensuite, à ce qui paraît, on sera en guerre.
Et ben, on en parlera. On ira ensuite sur l'intervention du raid à Lille, mais ça n'a rien à voir.
Ensuite, on aura notre rubrique « Il faut que ça se sache ». On parlera de migration, de migrants et de frontières.
Et à la fin, pour se changer les idées, quelques brèves un peu plus légères, suivies d'un agenda.
Et voilà. Et oui, c'est ça, j'allais dire, on finit par un agenda, mais tu viens de le dire.
Oui, je t'ai coupé l'herbe sous le pied.
Bah, l'autoplay, il marche pas le truc.
Alors, on va commencer tout de suite par le Burundi.
Toujours est-il que le Burundi, c'est quoi? C'est 10 millions d'habitants, c'est un voisin direct du Rwanda. Et là, il se passe des choses qui rappellent le pire de ce que la région a connu. Et le pire, c'est en particulier le génocide des Tutsis rwandais en 1994. Alors au Burundi, en 2001, il y a une guerre civile qui se terminait. Elle avait duré 8 ans, elle avait fait 300 000 morts. Cette guerre était une guerre entre Hutus et Tutsis. Alors les Hutus et les Tutsis, c'est pas exactement deux groupes ethniques parce qu'ils ont la même langue, ils ont la même religion, ils ont la même un peu tout. Mais c'est deux groupes qui ont été opposés et mis en concurrence par un siècle de pouvoir colonial et qui ont appris à se détester pendant ce siècle-là. Bon, en 2001 au Burundi, nouvelle constitution, une constitution de transition qui a été promulguée le 28 octobre 2001 et qui établissait une sorte d'alternance ethnique pour le pouvoir. La présidence et la vice-présidence devaient changer tous les 18 mois, et une fois ça devait être des Tutsis, une fois des Hutus. L'accord d'Arusha, qui rentrait en vigueur le 1er novembre 2001, mettait un terme au conflit avec cette constitution de transition. Bon, on ne sait pas si c'est très malin, cette manie de considérer que les Africains ont une opinion politique en fonction de leur ethnie. C'est un peu comme si en France, je ne sais pas moi, tous les Bornes se mettaient à voter Le Pen, ou alors tous les Cévenols devaient voter Chirac. Enfin, ça paraît un peu bizarre. Mais dans un premier temps, en tout cas, ça avait aidé à faire arrêter les massacres. Et c'est cet équilibre que le régime du président actuel, le président Nkurunziza, menace. Ce qu'on peut appeler l'esprit d'Arusha, ça interdisait au président de solliciter un troisième mandat, et c'est ce qu'il a fait en avril dernier. Et plus encore, ça lui interdisait d'organiser pour ça une élection et qui a été organisée dans des conditions telles qu'elle s'est soldée par une grosse protestation qui a déjà coûté la vie à 200 morts quand, par exemple, la police ouvre le feu dans des quartiers contestataires. Sur les quartiers, enfin sur tout le monde dans les quartiers, quoi. Bon, l'opposition au président Nkurunziza n'est pas exclusivement Tutsi, je veux dire vraiment pas du tout, parce que effectivement les gens sont pas, enfin c'est pas les Tutsi contre les Hutus, il y a quand même aussi une vie politique au Burundi. Par contre, le président, lui, il joue avec ce truc de les Hutus devraient forcément être avec lui, et les Hutus c'est 80% de la population. Mais les quartiers de la capitale où l'opposition à ce scrutin est vivante et active. J'ai écrit une phrase vraiment bizarre.
Ça se ressemble pas.
Et c'est toujours en direct.
Ah oui, c'est que les quartiers d'opposition sont des quartiers qui sont majoritairement Tutsi. Et alors voilà, là on en est quand même à 200 000 personnes au moins qui ont fui le pays. Et devant un mouvement qui pourrait se transformer éventuellement en rébellion armée, le pouvoir use maintenant d'un discours qui est un discours vraiment hyper craignos. La menace formulée est explicitement celle d'un massacre collectif. Le président du Sénat parle par exemple de pulvériser les quartiers contestataires. Le ministre de la Sécurité publique a rappelé aux Tutsis, donc c'est-à-dire à l'opposition, mais lui il dit les Tutsis à ce moment-là que les Tutsis sont minoritaires, et il a ajouté, deux points ouvrez les guillemets, si les forces de l'ordre échouent, on a 9 millions de citoyens à qui il suffit de dire faites quelque chose. Ça après le génocide rwandais, ce genre de truc-là, c'est quand même, ça fait quand même vraiment, vraiment flipper. Alors bon, la contestation aussi, hein, elle use de violence, il y a des armes dans les quartiers, il y a des proches du régime qui ont été descendus, mais la répression qui se passe en ce moment, elle dépasse vraiment toute mesure. La police tire à vue, elle sème la terreur, elle a aussi, par exemple, la semaine dernière, il me semble, interpellé et puis tabassé à mort un jeune homme de 25 ans, Welly, Nzitonda, et lui, il a été interpellé. Pourquoi ? Parce qu'il était le fils d'un célèbre militant des droits de l'homme, qui, donc le père de ce gars, avait lui-même été victime d'une tentative d'assassinat quelque temps avant. Voilà, dans ce climat, le pouvoir prend le risque de déclencher une chasse à l'homme ethnique et ou politique. Des violences ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Encore, je veux dire, c'est un peu comme tout le temps là, mais du coup là, voilà, dans la nuit de dimanche à lundi. Mardi, opération de police dans les quartiers, les quartiers contestataires. Alors, opération de police, les flics étaient accompagnés de jeunes qui avaient des machettes et des gourdins. Ils ont ratissé le quartier, ils ont fait sortir les chefs de famille des maisons, ils les ont tabassés. Les objets de valeur ont été un peu systématiquement volés. Mardi soir, les violences ont repris. Des positions de police auraient été attaquées dans les quartiers du centre de la capitale, donc Bujumbura. Des tirs intenses, des explosions de grenades et de roquettes ont été entendus à travers la ville. Ça a commencé vers 19h hier soir, ça a duré une trentaine de minutes selon des témoignages qui ont été recueillis auprès d'habitants de ces quartiers, et bien sûr aucun bilan n'est disponible pour le moment. Mais voilà, c'est ces gens qui clament de toute façon, pour lesquels on est complètement incapable de dire s'il y en a eu 3 ou s'il y en a eu 100, et ben ils sont loin de nous, ils sont africains. Et voilà, et ce truc de ils sont loin de nous, ils sont africains, est-ce que vous croyez que ça peut avoir un rapport avec le fait qu'aujourd'hui, même en fouillant vraiment l'internet francophone, c'était très très difficile de trouver des infos sur le Burundi?
C'est une question ?
Ouais, je ne rappelle pas de réponse.
Et voilà un petit point sur l'état d'urgence en France. Donc, selon une enquête réalisée par l'IFOP pour RTL, hier, le mardi 16 novembre, sur un échantillon de, écoutez bien, 910 personnes, une très large majorité de Français, 84%, se disent prêts à accepter davantage de contrôles et une certaine limitation de leur liberté pour mieux agir sur leur sécurité après les attentats du 13 novembre. Pour 59% des personnes interrogées, la France a basculé dans une véritable situation de guerre. Tiens, 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 ça ressemble aux déclarations du président de lundi. Ah, ensuite, 87% des personnes interrogées font confiance aux forces de l'ordre pour lutter contre le terrorisme. Tiens, tiens, et donc ça voudrait dire cautionnerait les nombreuses perquisitions et arrestations qui ont eu lieu sur le territoire et aussi en Europe. Bon, 75% des Français sondés approuveraient d'éventuelles mesures d'arrestation et emprisonnement des personnes faisant l'objet d'une fiche S. S, ça veut dire sûreté de l'État. Et ça veut dire, en gros, que ça vise des islamistes radicaux, des membres de groupes d'extrême droite comme d'extrême gauche. Voilà pour ce sondage qui semble en tout cas influencer l'opinion publique pour aller dans le sens du gouvernement, puisqu'il a annoncé de rallonger de 3 mois l'état d'urgence qui est en cours actuellement en France, ou d'aider à faire passer la réforme de l'état d'urgence qu'Hollande a nommé lundi le régime civil de crise. Bon, avant de parler des nouvelles réformes de la Constitution, j'ai envie de revenir un peu sur ce qu'implique exactement l'état d'urgence. Donc, l'état d'urgence, c'est une forme d'état d'exception qui restreint les libertés. Je cite, « Il confère aux autorités civiles, dans l'aire géographique à laquelle il s'applique, des pouvoirs de police exceptionnels portant sur la réglementation de la circulation et du séjour des personnes, sur la fermeture des lieux ouverts au public et sur la réquisition des armes. » Donc historiquement, l'état d'urgence avait été voté pour faire face à la guerre de libération en Algérie et la loi est toujours en vigueur et actuellement appliquée sur tout le territoire depuis le vendredi 13 novembre. Concrètement, ça veut dire que les préfets peuvent interdire sous forme de couvre-feu la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux précis et des heures fixées par arrêté. Ils peuvent aussi instituer des zones de protection de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, par exemple les frontières. Interdire de séjour toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics. Donc le ministre de l'Intérieur peut assigner à résidence toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public. Donc ce qui ouvre assez considérablement le pouvoir de la police. Le ministre de l'Intérieur ou les préfets peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, des bits de boissons et lieux de réunion, et les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre, ainsi qu'ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégorie. Enfin, par disposition expresse, le ministre de l'Intérieur et les préfets peuvent ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit et prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et de la radio. Mais cette dernière mesure actuellement n'est pas appliquée. Donc le refus de se soumettre peut être passible d'emprisonnement pour un loyer jusqu'à 2 mois et d'une amende de 3 750 € ou les deux. Et conformément à l'article 2 de la loi, l'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Et attention, il ne peut être prolongé au-delà de 12 jours que par une loi qui doit en fixer la durée définitive. Et c'est cette dernière partie qui va nous intéresser. Mais est-ce que vous pouvez me rappeler la dernière fois que l'état d'urgence a été mis en place en France ?
Vous vous rappelez ? Les émeutes 2005, non ?
Ouais, c'est exactement ça. Le 8 novembre 2005, pour réprimer donc les émeutes, c'était Chirac qui avait décrété en Conseil des ministres l'état d'urgence, permettant ainsi aux préfets des zones concernées de déclarer des couvre-feux. Sauf que le 15 novembre 2005, l'Assemblée nationale française avait voté le projet de loi du gouvernement de prolonger l'état d'urgence pour une durée maximum de 3 mois, puisqu'il ne pouvait pas la prolonger plus que de 12 jours, donc à compter du 21 novembre. Et le 16 novembre, le Sénat avait validé le projet, donc l'état d'urgence était maintenu alors que les émeutiers avaient battu en retraite. Pratique pour instaurer un régime permanent d'exception, vous voyez. Mais c'est une contradiction qui fait un peu bugger un régime permanent d'exception. Bref. En tout cas, ce lundi 15 novembre, Hollande a fait la même chose. Et alors, si vous m'avez bien suivi, pour ceux qui aiment les théories des chiffres, vous êtes servis. Même jour, 10 ans après. Wow. 15 novembre 2005, 15 novembre 2015. Bref, voilà.
C'est un complot.
Ouais, ça va alimenter les théories.
Hollande serait un reptilien, que ça m'étonnerait pas.
Donc, Hollande a expliqué triomphalement lundi avoir utilisé pleinement les moyens qu'offre l'état d'urgence. Donc, il s'est valorisé sur les nombreuses perquisitions administratives, assignations à résidence. Et donc, le président a annoncé devant le Congrès son intention de prolonger l'état d'urgence de 3 mois. Et l'exécutif juge aussi obsolète le texte de 1955. Donc, le président propose de modifier la Constitution pour, je cite, alors là, ça vaut le coup, « lutter contre le terrorisme de guerre tout en restant dans le cadre de l'état de droit », c'est-à-dire mettre en place un régime civil de crise. Pour cela, donc, modifier l'article 16 qui régit les conditions d'attribution des pouvoirs exceptionnels au président de la République et l'article 36 qui porte sur l'état de siège. Il veut y ajouter donc une troisième situation, l'état de crise. Et alors, ce n'est vraiment pas anecdotique de l'emploi de ce terme régime civil de crise, parce que civil, ça évoque quoi ? C'est pour maintenir la paix. Vous voyez, face à la guerre, quoi. Donc, ça veut dire maintenir la paix sur le territoire et pour mieux faire la guerre dans d'autres pays. Et crise, bah, ça sonne comme la crise économique, l'austérité dans laquelle on nous maintient depuis un moment en Europe. Donc, je pense que tous ces trois mots-là ne sont vraiment pas choisis au hasard. Mais écoutez plutôt un extrait de ce que j'ai entendu mardi 16 novembre sur France Inter.
Bonjour Maître Henri Leclerc.
Bonjour.
Président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Alors François Hollande veut créer un régime civil de crise pour mieux lutter contre le terrorisme. Est-ce justifié d'après vous ?
Réformer la Constitution, ce n'est pas rien. Faut-il faire des lois d'exception dans l'émotion ? C'est que nous sommes dans un État qui doit durer 12 jours, ça me paraît concevable, mais qui doit en plus être prolongé 3 mois après, ce qui m'inquiète. La gardienne des libertés, c'est l'autorité judiciaire. Or, tout cela, c'est en définitive une forme de dépossession de l'autorité judiciaire pour le donner à la police. Alors,
vous comprenez, Maître Henri Leclerc, quand vous rappelez tous ces grands principes, vous êtes presque inaudible. Pardonnez-moi de dire
Non, mais attendez,
c'est pas pour vous que je dis ça, mais parce que les Français sont inquiets et qu'ils réclament des mesures et du concret.
Je suis inaudible, bien sûr. Je suis inaudible. Mais je voudrais que les gens comprennent que l'état d'urgence, quand il se prolonge dans le temps, ce n'est pas rien. L'état d'urgence, par exemple, c'est ce qui a fait qu'il y a eu en 1962 le drame de Charonne avec tous ces gens tués parce qu'il y avait une manifestation interdite et que donc la police l'a réprimée. Ou les massacres du 17 octobre 1961 sur l'interdiction d'une manifestation algérienne. C'est aussi ça une conséquence de l'état d'urgence. Mais ce qu'il propose est-il possible d'être bien fait dans la précipitation? C'est la seule chose qui m'inquiète. Alors je suis obligé de le dire. Regardez les Américains avec leur Patriot Act ou la guerre en Irak. Les Américains qui ont permis d'interner, d'emprisonner des gens sans aucune limite dans le temps, simplement parce que c'était des combattants ennemis, c'est Guantanamo. Même Obama, il n'a pas été capable de se débarrasser de Guantanamo parce que l'ensemble de la population est contre le fait. Bon, ben oui. Ben je dis les choses.
Donc voilà, il dit des choses et en tout cas j'espère ne pas être inaudible ce soir sur Radio Canu. Donc ces modifications de la Constitution vont avoir de lourdes conséquences. Et écoutez, là je vous l'ai cité, c'est du heavy. Alors d'abord, c'est permettre de banaliser un régime exceptionnel et de le faire entrer dans la Constitution en le nommant régime de crise. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais du coup, ça lui donne une valeur constitutionnelle et ça ouvre des contrôles supplémentaires et laisse plus de marge de manœuvre aux flics. Également, donc réformer, Hollande veut réformer pour mieux agir sur les nouvelles technologies et les nouvelles menaces. Donc il pourrait s'agir, dans ce qu'il veut mettre en place, d'ajouter la saisie de matériel informatique par exemple, parce qu'en 1955 il n'y avait pas de mention d'ordinateur. Renforcer les assignations à résidence et les perquisitions administratives. Et donc dans ce paquet là il y a des choix de la nationalité, donc les binationaux nés français, donc c'est quand même des personnes qui sont nées françaises, hein, et conditionnées au maximum le retour sur le territoire de djihadistes français via un visa spécifique. Donc voilà, c'est quoi ce que sont les conséquences qui peuvent être appliquées là. C'est quand même vraiment hallucinant. Il a également annoncé la création de postes supplémentaires, 8500 au total, dans la police, la justice et les douanes, et l'arrêt de la réduction des effectifs militaires jusqu'en 2019. C'est pas fini. Donc le contrôle à la frontière française est effectif. Donc depuis vendredi, donc lié aux attentats, mais aussi on en avait parlé, il voulait fermer les frontières pendant un mois pendant la COP21. Mais il veut également rétablir le contrôle systématique aux frontières de l'Europe en convoquant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU dans les prochains jours. Donc voilà, il se sent plus, il y va, il en profite quoi. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe depuis vendredi sur le territoire? La toute-puissance de la police est à l'œuvre et a causé bon nombre d'arrestations et de perquisitions et qui sont pas directement liées forcément aux attentats. Ils en profitent un peu pour y aller fort quoi. Donc je citerai que dans le Rhône, dans la nuit de dimanche à lundi, 5 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'antiterrorisme. Donc 3 hommes à Fézin, ainsi qu'une cache d'armes, un autre à Saint-Priest et d'un cinquième à Villeurbanne. Les amalgames racistes sont également à l'œuvre, puisque plusieurs lieux de culte musulmans ont été pris pour cible, à Créteil, à Oloron, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pontarlier en Franche-Comté, mais également au Canada et aux Pays-Bas. Des hommes ont été également roués de coups en pleine rue. Et par contre, en revanche, à Brest, c'est un petit clin d'œil, les fidèles de la mosquée ont eu le plaisir de découvrir une guirlande de cœurs déposée sur la grille du lieu de culte. Donc voilà, petit...
Mais attention.
Allez, je reviens au sondage. Pour revenir à ce sondage, 67% des personnes interrogées pensent que la vie des Français va changer dans les prochains mois. Alors, pour l'étayer et donner une perspective, je lis cet extrait du blog lundi matin, d'un bout de l'éditorial, publié
lundi
le 16
novembre. Lundi matin, c'est le nom du blog, hein, c'est pas le moment où tu le lis.
Oui, exactement. Donc je cite, « L'indécision que nous payons aujourd'hui, écartelée, entre tant d'aberrations, c'est de n'être pas parvenu à formuler et partager une perspective politique moins dégueulasse que celle de l'État islamique et plus vivable, moins misérable que celle de ceux qui prétendent gouverner. En réalité, nous n'avons pas envie d'être sécurisés et nous ne sommes pas terrorisés. Nous ne serons pas plus pétainistes que victimes de l'islam. Ce qui nous paralyse, ce qui nous étouffe, c'est l'absence d'une voie praticable. Dans cette guerre, c'est ce qu'il va s'agir de construire et de faire exister, malgré la bêtise et la peur, contre la bêtise et la peur. Et je laisserai quand même le mot de la fin à Saïd Bouamama, à ne pas vouloir comprendre qu'un monde immobile conduit à des actes immondes, on constitue le terreau de la rencontre entre l'offre et la demande de nihilisme.
Et on continue sur ces réactions post-attentat à Paris. Il est possible que dans nos interventions, on se répète un petit peu sur quelques points, mais on se répétera sans doute moins que les médias autour de nous, de toute façon. Moi, j'ai décidé de réécrire largement, découper, transfigurer un texte que j'ai aussi synthétisé, même comme ça, parce qu'il était vraiment long, que vous pouvez retrouver dans son entièreté sur le blog « Résister à l'ère du temps ». Sur Blogspot, je crois, quelque chose comme ça. Samedi 14 novembre à 11h30. Sarkozy vient de déclarer « Nous sommes en guerre ». Pour une fois, je suis d'accord avec lui, ils sont en guerre. Vous êtes en guerre, vous, les Sarkozy, Hollande, Valls, Cameron, Netanyahou, Obama. Vous êtes en guerre, vous et vos alliés politiques, vous et vos amis, patrons de multinationales. Et vous nous avez entraînés là-dedans sans nous demander notre avis. Afghanistan, Irak, Libye, Mali, Syrie... Nous n'avons pas été toujours très nombreux à protester, il faut le reconnaître. Mais la guerre n'a pas commencé vendredi. Elle n'a pas commencé en janvier lors des tueries de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Elle a commencé bien avant. Peut-être la première guerre en Irak, ou le 11 septembre, ou l'Afghanistan, ou même encore avant, tout dépend de la grille de lecture. Car le capitalisme est une guerre constante et le pillage des ressources à travers le monde par les Occidentaux est plusieurs fois centenaire. Quoi qu'il en soit, voilà des années que la France est en guerre sans l'assumer. À midi, samedi, Daesh revendiquait l'attentat. Évidemment, eux aussi, ils sont en guerre. Eux aussi font des morts, que je ne légitimerai pas non plus. D'après un témoin présent au Bataclan, l'un des assaillants aurait crié « C'est la faute de Hollande, c'est la faute de votre président, il n'a pas à intervenir en Syrie ». On peut fermer les yeux et se boucher les oreilles, et se laisser enfumer par la rhétorique dépolitisante du terrorisme aveugle, blablabla, forcément inexplicable. Mais les assassins de Paris ne sont pas des pauvres types irresponsables, des fous manipulés par je ne sais quel service secret. Oui, Daesh fait de la politique, ce sont des assassins qui font de la politique, avec leurs armes et leurs méthodes. La Russie, la France et les États-Unis bombardent la Syrie. L'Arabie Saoudite bombarde le Yémen. Les opérations, soi-disant opérations, françaises se poursuivent au Mali. Obama a annoncé que ses troupes ne quitteraient pas l'Afghanistan. C'est aussi leur politique. D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, il n'y a jamais eu autant de réfugiés et de déplacés qu'aujourd'hui, et il y a peu de chances que les choses s'améliorent. Déplacés dont on se plaint au passage, qu'ils viennent se réfugier ici. Tous ces conflits ne peuvent être sans conséquences de ce côté-ci de la barricade. Le bilan parisien à l'heure actuelle est de 129 morts. C'est beaucoup, et ça fait peur. C'est presque autant que la moyenne quotidienne des morts en Syrie. 250 000 morts depuis mars 2011, ça fait presque 4500 morts par mois, soit près de 150 morts par jour. Nous vivons dans ce monde en guerre, et cela permet à certains de faire des affaires. 2015 est une année record pour les ventes d'armes françaises. Ce pays se félicite de vendre ses machines de guerre à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Mais depuis ce week-end, la France s'étonne, s'indigne, s'insurge d'être elle aussi ciblée et fait comme si l'attaque de vendredi tombait de nulle part. Paul Valéry disait que la guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Il avait raison, ce sont toujours les mêmes qui trinquent et les puissants qui gèrent. Et si on veut que tout ça s'arrête, il va falloir, une fois le choc passé, tout faire pour mettre un terme à cette fuite en avant vers la barbarie et la bêtise généralisée. Il n'est pas trop tard. Il est encore temps de passer à autre chose et radicalement, en refusant pour commencer l'injonction avec nous ou avec les terroristes. Ce n'est pas ma guerre, ce n'est pas notre guerre, c'est votre guerre. Vous êtes les seuls responsables de tous ces morts à travers le monde.
Eh ben on va continuer sur les réactions un peu économiques. Alors si le CAC 40 est en légère baisse depuis les attentats, ce n'est pas le cas pour toutes les valeurs de la bourse. Alors c'est pas souvent qu'ici on parle de bourse, mais pour ces infos à contexte exceptionnel, infos exceptionnelles. Alors, et devinez à qui profite le crime, hein, même si le type juste avant moi vient de vous balancer l'info comme ça.
Et ben, bien ton scoop.
Bien évidemment, aux sociétés qui font leur beurre sur la sécurité et la guerre, autrement dit aux fabricants d'armes et leurs acolytes. Alors par exemple, le groupe Thales, hein, qui est le premier fournisseur de matos électronique pour l'armée française, a fait un bond de 3% d'Assaut Aviation à l'ouverture du CAC 40 le 13 novembre, c'est-à-dire... Vous voyez quoi, les attentats, ils ont lieu vers dans la nuit, là. Du coup, dès que la bourse ouvre, pim, un bond de 1,38%. Aux États-Unis, les actions de... Bon, alors là, ça vous dit rien, parce que moi non plus, hein, je vous rassure. De Raytheon, de North Group, Grumman, de Lockheed Martin, ou, bref, plein d'autres trucs comme ça. Alors, respectivement, ça donne plus 3,41%, plus 5%, plus 5,25%. Qui sont bien sûr dans le désordre des sociétés qui fabriquent des avions de combat, des missiles ou du matos de cybersécurité, et ben ont toutes connu une très très bonne journée financière. Voilà, tout ça pour illustrer que quand Hollande prononce le mot guerre, ses petits copains derrière lui se frottent bien les mains.
Eh ben en guerre. En guerre, c'est pas très nouveau qu'on les rende en. Alors on va juste faire sur le quinquennat, mais en 2013, Hollande a lancé une guerre au Mali. En 2014, il a lancé une guerre en Centrafrique. En 2014 encore, il a commencé les bombardements en Irak. Alors dans toutes ces guerres, eh ben il y a des morts. Alors ils sont généralement africains, arabes, des fois djihadistes, des fois non quand même. Mais bon, c'est toujours des morts. Et comme souvent il s'agit de bombardements, dans tous les cas on ne sait pas trop qui meurt sous les bombes. Hein. On peut toujours viser des nids de djihadistes, une bombe balancée d'un avion. On ne sait pas exactement qui se fait descendre. On sait par ailleurs que l'armée française, comme n'importe quelle armée, hein, quand elle occupe, ou d'après le vocabulaire, un vocabulaire plus au XXIe siècle, quand elle maintient la paix quelque part, elle a tendance à se comporter comme, bah, comme des gens armés au milieu d'une population qui l'est parfois un petit peu, mais en tout cas moins. En Centrafrique, par exemple, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des militaires français qui sont chargés de protéger des orphelinats et qui ont plutôt violé les gamins qui étaient dans les orphelinats. C'est dégueulasse, ouais, c'est dégueulasse, c'est la guerre. Il faut aussi se souvenir du ton des journalistes français quand, en 2014, au moment où la France a commencé les bombardements en Irak. Oh là là, ils étaient hyper excités, ils étaient hyper martiaux, ils étaient braves, ils étaient décidés. Alors ils étaient loin du front et loin des morts, mais ils étaient tellement fiers de participer en tant que la France à aller tuer des islamistes. Alors voilà, quand tour à tour François Hollande, Sarkozy, Manuel Valls déclarent que nous sommes en guerre. Eh ben, on pourrait leur dire qu'ils nous apprennent pas grand chose et qu'ils étaient temps qu'eux, ils l'apprennent eux-mêmes, hein, parce que, entre autres, c'est entre autres eux qui les ont déclaré toutes ces guerres. Et, bah voilà, après, moi, j'ai presque le même chiffre que ton texte de tout à l'heure sur les morts au quotidien en Syrie. Moi, j'étais plutôt tombé sur 170 par jour, mais.
Ah, tu me bats.
C'est ça. La nouveauté de vendredi, c'est tout bêtement que cette fois le théâtre des opérations, hein, l'endroit où on meurt, l'endroit où ça saigne, c'est pas à Raqqa, c'est pas à Bangui, c'est à Paname. Et ben voilà, c'est dégueulasse, mais c'est pas plus dégueulasse, juste parce que pour cette fois, ça se passe en Europe et en France.
Alors le RAID, vous connaissez, hein, c'est ce service de police qui fait la une des journaux ces derniers jours. Eh ben, il a procédé à une intervention à Lille hier matin. Alors là, ce n'était pas pour déloger des djihadistes en puissance, mais pour expulser des squatteurs qui étaient dans deux maisons. Alors l'équipe, lourdement équipée, armée et munie de leur pick-up avec une rampe leur permettant d'accéder aux fenêtres du premier étage des maisons, sont entrés dans les lieux vers 8h30 du matin. Alors bon, quand la police est questionnée sur ce déploiement quelque peu disproportionné, elle répond simplement, et là je cite, « Ce n'est pas ordinaire d'utiliser ces forces-là pour ce type de mission », nous confirme donc une source policière. Mais comme elles sont actuellement très mobilisées, on en profite pour servir du matériel qu'elles détiennent.
L'état d'urgence.
Alors, on ne sait pas vraiment si les équipes du RAID ont voulu se faire les dents sur des squatteurs ou si le commissaire a profité de l'état d'urgence pour les faire un peu flipper. Mais en tout cas, c'est quand même une sacrée mise en garde des mesures et dispositifs qui risquent d'être mis en place suite aux attentats et qui risquent de se généraliser à toutes les personnes en marge ou en résistance, choisissez, contre ce système qui fabrique son propre ennemi.
Chut, écoutez.
À tout moment, il peut venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre.
Alors, je parle de Calais et au vu du contexte, la chasse aux migrantes ne peut que s'intensifier. Et il n'y a pas de vie ou de mort plus importante que d'autres. Un jeune Afghan est mort heurté par un train à Cherbourg dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 novembre. Il avait 29 ans et les associations locales cherchent à entrer en contact avec sa famille ou ses amis. C'est le 21e mort connu à la frontière britannique depuis le début de l'année 2015. Et petit rappel, avec l'augmentation du nombre d'exilés à Calais, les migrants et migrantes se dispersent sur tout le littoral, ainsi qu'en amont des autoroutes conduisant vers les ports principaux. Donc ils tentent de passer comme ils peuvent des différents ports avec différentes stratégies. Et si les projecteurs sont braqués sur Calais, donc la principale liaison entre le continent et la Grande-Bretagne, depuis l'automne 2013, les ports moins importants sont redevenus plus attractifs. Samedi 14 novembre, devant les bidonvilles de Calais et de la Grande-Synthe, près de Dunkerque, les exilés ont organisé des rassemblements en hommage aux victimes des attentats de Paris. Beaucoup de réfugiés syriens, syriennes et kurdes y participaient. Et voilà la déclaration d'un exilé afghan. Je cite « Les attentats de Paris hier étaient horribles. Ce n'est pas juste dans aucune religion. Ce n'est pas l'humanité. Et les réfugiés à Calais sont particulièrement contre ça parce que nous avons déjà eu cette mauvaise expérience dans notre propre pays. » Et lundi 16 novembre, dans l'après-midi, il y a eu une manif. C'était une centaine d'exilés qui manifestaient contre les conditions de vie et contre les violences policières de ces dernières semaines, particulièrement les violences du 9 novembre. Et actuellement à Calais, quasi plus personne n'envisage de demander l'asile dans un pays où la police gaze aussi les enfants. Donc les exilés sont restés là, derrière leur banderole, et après une grosse demi-heure, les CRS s'équipent et dispersent la manifestation en gazant les personnes, tout le monde, enfants compris, à bout portant et en les frappant à coups de matraque. Donc ils ont visiblement attendu les ordres pour intervenir. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de bavure, il s'agit de décision de la hiérarchie. Encore une fois, on voit l'état d'urgence à l'œuvre. Et depuis presque un mois, donc la police contrôle aussi des blancs à Calais qui vont donc dans bidonville d'État là. Et selon les règles variables d'heure en heure, interdisent parfois l'accès selon des critères changeants. Et il y a eu aussi des arrestations la semaine dernière. Et les autorités donc agitent dans les médias le spectre de l'ultra-gauche. Donc ça, on en avait aussi parlé la semaine dernière. Et donc l'ennemi désigné par les autorités, c'est le mouvement No Border. Sachant la police là à Calais concrètement, elle englobe sous l'étiquette No Border toutes les personnes qui font acte de solidarité avec les migrants et les migrantes, citoyennes y compris. Du coup, la tension monte un peu. Donc là, je vais vous lire un tout petit extrait d'un article qui était paru dans la revue Plein Droit, mars 2015. Donc il est très long, vous pouvez aller le lire, n'hésitez pas. Mais là, c'est juste pour redire un peu brièvement qu'est-ce que c'est que le mouvement No Border. Donc la préoccupation principale du mouvement No Border, ce sont les frontières qui empêchent les victimes d'injustices et de violences liées au désordre du monde de fuir leur pays. Venu pour donner une visibilité plus forte à la situation calaisienne, les militants et militantes de ce mouvement décident de rester au prix d'un lynchage médiatique savamment entretenu pour éviter la convergence des luttes. Donc pour le mouvement No Border, international, autogestionnaire et anti-hiérarchique, voilà, c'est dit. L'engagement contre l'existence des frontières et pour la défense de la liberté de circulation est central. Et il n'a pas commencé à Calais, et voilà.
Maintenant, on va faire un tour du côté de l'Italie, et plus précisément à Turin, où le samedi 14 novembre, les enfermés du centre de rétention, alors là-bas ça s'appelle un CIE de Turin, ont à nouveau lancé une révolte qui a détruit une grande partie du centre. Alors ça fait plusieurs semaines que l'ambiance est particulièrement tendue au centre, avec plusieurs expulsions violentes notamment. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est un refus de parloir à un retenu avec sa femme. Hier, les retenus se sont donc organisés pour protester contre les conditions d'enfermement et ont mis le feu à des vêtements, mettant hors d'usage la zone rouge et la seule chambre ouverte de la zone jaune. Dans la zone blanche, il ne reste donc plus que deux chambres. Alors là, c'est parce que là-bas, les centres de rétention sont découpés en plusieurs zones. Depuis peu, des travaux de restructuration de la structure avaient commencé afin de pouvoir atteindre une capacité d'accueil de 180 postes. Et ben encore une fois, les enfermés ont réussi à gripper les rouages de la machine à expulser. Bravo aux incendiaires.
Et pour rappel, une permanence juridique de soutien aux sans-papiers est ouverte depuis avril et tous les lundis, donc de 18h30 à 20h. C'est à la Lutine, au 91 rue Montesquieu, à Lyon 7e Guillotière. Et donc les personnes qui animent cette permanence ne sont pas des juristes, mais ont acquéri au fur et à mesure des années de lutte auprès de sans-papiers de l'expérience et ont mis en place cette permanence pour faire face à des démarches compliquées et en essayant de sortir des rapports habituels de domination. Alors voilà un bout de leur présentation. Nous sommes contre le néocolonialisme, contre toutes les frontières et pour la liberté totale de circulation et d'installation de tous et toutes. Mais nous sommes bien conscients qu'il est difficile aujourd'hui de vivre en France sans avoir des papiers en règle. Alors, en attendant de faire la révolution et qu'il n'y ait plus besoin de papiers pour personne, nous ferons notre possible pour en obtenir à ceux et celles qui n'en ont pas.
Et on va finir cette rubrique « Faut que ça sache » par une petite proposition que je vous fais. Si vous alliez ce week-end à Marseille. Déjà, il fait encore beau, c'est vraiment le moment. Mais surtout, du 20 au 22 novembre 2015, s'annonce un très très gros week-end de soutien et de discussion. C'est à l'appel du collectif soutien Migrants 13 dont je vais lire un petit bout du communiqué et du programme. Depuis plusieurs mois, migrants et Marseillais, réunis au sein de ce collectif soutien Migrants 13, s'organisent afin de faire face aux besoins et nécessités du quotidien, c'est-à-dire hébergement, accueil, soutien juridique, cours de français. Marseille est une ville étape importante sur certains trajets de migration du fait de la proximité de la ville italienne de Vintimille. Ville de transit, elle est peu à peu également devenue ville de stabilisation. Certains choisissent de souffler un peu ici avant de poursuivre leur parcours, d'autres décident même de s'y installer. Le collectif organise un week-end d'événements, de rencontres et de soutien pour que souffle le vent de toutes les voix que les États refusent d'entendre et d'écouter. Rendez-vous donc les 21, 22 novembre avec au programme exposition, discussion, apéro, projection, bouffe, concerts plus ou moins sauvages, info kiosque, manif nocturne, festin d'hiver, radio et bus cantine. Ça a l'air quand même de valoir le coup.
Et pour finir
c'est pas toi qui finis, c'est lui.
T'allais balancer l'agenda.
Et ouais.
Et non,
ouais.
Moi j'ai encore des infos comme ça pour.
Mais oui, je suis désolé.
Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Des infos comme ça pour aller pour détendre un peu comme ça parce que sinon c'est chaud. Alors, vous voulez d'infos plus légères? Eh ben, c'est parti. Eh ben, c'est grâce à Alastair Moffat que je vais pouvoir faire ça. Bon, alors si vous nous écoutez en voiture et que vous êtes en train de tourner depuis 10 minutes voire plus pour chercher une place et que vous en aviez peut-être trouvé une, mais non, en fait, ça rentre pas. Alors, je vous conseille tout de suite d'éteindre votre autoradio, parce que ce type a réussi à battre le record du monde de créneaux en laissant seulement 34 cm devant et derrière les véhicules. Pas mal, quand même.
Ah ouais.
Et pour ajouter du fun à tout ça, il est parti en marche arrière, a tiré son frein à main, et a fait un demi-tour, un tour et demi sur lui-même, et au moment où la voiture s'est arrêtée, elle était garée entre les deux autres. Il ne les avait pas du tout touchés. Tout à fait. Ah, je vous avais bien dit qu'il fallait éteindre votre radio si vous cherchiez une place. Bon, sinon, on a quand même toujours le MEDEF qui va nous faire rigoler, hein. Alors, c'est un peu plus compliqué, parce que là, c'était une vidéo, je vais parler d'une photo, alors écoutez bien. Dans la nouvelle campagne d'affichage publicitaire pour le lancement de monmedef.com, à destination des PME. On y voit.
Déjà, c'est drôle.
Ouais, c'est ça. Mais il y a des spots publicitaires, il y a des spots à des affichages dans les espèces de trucs en ville, là, et à la radio, vous les avez certainement entendus. Et en tout cas, sur les photos, on voit un patron tout beau, tout jeune, sans cravate, tenir un panneau à la main avec dessiné deux engrenages abriqués l'un dans l'autre. Dans l'un est écrit mon MEDEF, dans l'autre est écrit mon engagement. Vous l'aurez compris, un des engrenages c'est le MEDEF, l'autre c'est la PME, enfin, en tout cas le patron de la PME. Et l'idée, c'est bien qu'ils travaillent ensemble, tout ça, les rouages et tout. Jusque-là, pas de problème, vous allez me dire. Mais au-dessus des engrenages, une flèche montre que le sens de rotation des deux roues crantées est le même. Vous avez compris? Et du coup, c'est impossible que deux roues crantées d'un engrenage qui sont imbriquées tournent forcément en sens inverse.
Gros plantage.
Donc le MEDEF a tout faux, quoi. Je veux dire, en plus d'avoir foutu des flèches,
lui qui plante l'économie française.
Exactement, tout à fait. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'au MEDEF, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis les mains dans le cambouis. On continue sur les erreurs d'impression. En Indonésie, le ministère de la Santé a lancé une campagne sur les risques de transmission du sida. Alors, des affiches ont été collées de partout dans des lieux très fréquentés, genre gare, métro, etc., etc. On pouvait lire dessus, je cite, que le sida pouvait se transmettre par des piqûres de moustiques, la natation en éternuant, par la salive et la transpiration de l'homme.
Ah ouais.
Donc là, ça, après première vue, c'est ça, ça craint. On se dit, oh putain, quelle mouche les a piqués. Mais en fait, il s'agit d'une erreur d'impression de la part de l'imprimeur qui a oublié la négation. Bon, l'histoire ne dit pas si le type est juste convaincu qu'en fait le sida se transmet par tout ce que j'ai cité au-dessus, et qu'en fait il a dit non, le gouvernement nous ment, ça a priori ce serait juste une erreur. Donc il a ensuite tout imprimé, et comme c'est des trucs officiels là, comme ça, normalement quand un imprimeur reçoit un document, avant de l'imprimer et avant de l'envoyer, il doit faire valider le tout, enfin voilà, c'est des chaînes de protocole. Lui, il a tout fait comme ça, un peu l'arrache, hop, et du coup les affiches se sont retrouvées à coller un peu partout. Bon, bah, quand le ministère de la Santé s'est rendu compte de l'erreur, bon, il s'est excusé de partout, il a tout fait enlever. Et voilà, du coup, il s'est fondu en excuses, il a fait refaire des affiches, et il a également dit qu'il allait redoubler d'informations pour essayer d'annuler l'effet de cette méga boulette, qui risque d'avoir un peu des trucs de quand tu combats un préjugé, si un espèce de truc avec un tampon officiel te dit oui, t'as raison de penser ça, bah après, derrière, rattraper le truc, ça risque de pas être évident.
Et voilà. Pas être rapide, ouais.
Mais si vous nous écoutez en Indonésie, dites que quand même, le sida, ça se transmet pas du tout comme ça. Ben voilà, je crois que j'ai fini. Oui, j'ai fini.
Alors, c'est l'heure de l'agenda, cette fois.
C'est l'heure de l'agenda.
Et voilà. Et donc, deux petites infos. C'est pour dire que... Vous rappelez ce que c'est, le Tidor?
Le Tidor?
Ouais.
Non.
Ça fait plusieurs années qu'on en parle, chaque 20 novembre. C'est la journée de souvenirs trans. La déclination française du Transgender Day of Remembrance. Tidor, donc, qui se tient internationalement le 20 novembre. Donc, elle célèbre le souvenir des personnes assassinées à cause de la transphobie, c'est-à-dire la haine ou la peur des personnes trans. Et donc, à l'occasion de cette journée, Chrysalide et la coordination des groupes anarchistes vont proposer une projection de débat apéritif autour des transidentités et de la transphobie. Donc, la projection, c'est « Gare aux transsexuels ». Donc la transsexuelle menace, qui est un peu vieux, qui date de 96, qui est un documentaire de Rosa von Pronheim, et ça sera donc à partir de 20h30 à la librairie La Plume Noire, 8 rue Diderot à Lyon 1er. Et sinon dimanche, il y a un forum qui est organisé par le comité de soutien à Pinard-Sélec de 15h à 22h, donc c'est toute la journée si vous voulez, et c'est au Périscope. Et alors c'est articuler les luttes et déborder les frontières, et c'est un peu sous les thématiques de féminisme, non-violence, écologie. Donc voilà, on a les idées qu'on veut là-dessus, et je pense pas forcément les mêmes, mais justement c'est pour venir en discuter, en débattre cette journée. Donc il va y avoir à partir de 15h30 donc des lectures et des spectacles. À 16h30, il va y avoir une table ronde sur la situation internationale avec des militants, militantes d'Arménie, de Syrie et de Turquie. Et aussi des points d'information là sur la situation de Pinard-Sélec et de ses recours, etc. Et voilà. Et puis un concert pour finir, un concert acoustique folk rock. Et voilà, ça sera au Périscope le 22 novembre.
Ouais, c'est fini pour ce
Canu Info.
Canu Info.
Et on peut peut-être ajouter que si, comme nous, là, comme ça, avec tout ce qui s'est passé, vous pouvez peut-être avoir du mal de savoir quoi penser, de ce qui se dit, de tout ça, machin. Et en tout cas, sur le site rebellion.info, Il y a toute une compilation de textes de du coup plutôt tendance anarchiste, extrême gauche, tout ça, qui peuvent donner des billes ou faire un espèce de regard un peu différent de tout ce qui se dit dans l'espèce de masse. Et du coup, ça, voilà, peut-être des chances que vous soyez pas d'accord avec des trucs ou pas, mais en tout cas, ça fait un truc où ça peut éclairer sur d'autres points et ça vaut quand même vraiment vraiment le coup d'aller y jeter un œil. Il y a vraiment des trucs assez chouettes.
Ça fait un petit souffle, ouais.
Exactement. Et ben voilà, il est 19h50.
On finit un peu en avance pour une fois, on vous laisse avec les bandes continues. Et ensuite, il y aura Imbier Noir, l'émission de la Confédération des groupes anarchistes, suivie de La Lumière du Frigo. Bonne soirée sur Radio Canu.
Merci de nous avoir écoutés.
Et ciao. À la semaine prochaine.
Brûler des voitures, pourquoi pas? Avec tout le mal que l'auto fait, y a pas de raison qu'on arrête là le début de notre auto d'affé. Après les voitures, les camions, les champs d'OGM, la télé, les paperasses de l'administration, tout ce qui mérite d'être brûlé, les emballages plastiques, les films porno, les centrales nucléaires, le CAC 40, la publicité, les armées, la cloque, la dope, l'amiante, le goudron, le sida et les jeux vidéo, le béton, je sature, elle est passée où, la nature? Le béton c'est ça, ma culture. Et on ne pense à moi que quand je brûle des voitures. Et on ne pense à moi que quand je brûle des voitures. Et on ne pense à moi que